À travers mes différentes activités liées au vélo, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux cyclistes au parcours singulier, des voyageurs, des coureurs, des artisans, des passionnés. De ces rencontres est née l'envie d'enregistrer ce podcast, l'envie de partager leurs récits, leurs aventures, leurs expériences. Alors il faut bien avouer que cette période de confinement a un petit peu accéléré les choses, car s'il y a bien un trait commun avec tous ces cyclistes, c'est cette même envie d'enfourcher leur vélo, de prendre la route et de découvrir de nouveaux horizons. J'ai donc voulu savoir comment eux vivent le confinement, comment ils s'entraînent et quels conseils ils peuvent partager avec nous. Je suis Laurent Mélandeau et bienvenue dans la roue d'Alexandre Voisine. Mon invité du jour est un insatiable amoureux du vélo sous toutes ses formes. Des VTT cross-country dont il design les modèles pour la marque Triban, au cargo bag qu'il utilise aussi bien pour traverser la France chargé de packs de bière que pour livrer des repas aux sans-abri pendant le confinement, en passant bien sûr par les Grand B dont il détient un titre de champion d'Europe ou encore le gravel bike pour lequel il a créé une course entre Terril et Pavé du Nord. Et même le vélo virtuel puisqu'il a relevé le défi virtual Everesting. Beau programme donc pour ce 5e épisode de Dans la roue. Allez, c'est parti. Bonjour Alexandre, comment vas-tu? Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas donné de nouvelles.
Oui, salut Laurent. C'est vrai que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Lille, quand tu es venu signer ton livre. Voilà, c'était la dernière fois.
C'était pour la promo de vélo urbain chez Cycle Guedelos, ouais, effectivement. Ouais. Alors, on va commencer par la petite question rituelle. Quelle est ton humeur musicale du moment, Alexandre?
Alors, bizarrement, j'écoute pas énormément de musique, mais c'est vrai que je me suis surpris à rechercher un groupe que je connais pas tant que ça, mais j'aimais bien certaines chansons. C'est Four Hero, ça s'appelle. C'est assez mélodique. Voilà. C'est un truc que j'ai retrouvé sur Deezer là l'autre fois. Et j'ai écouté ça, mais après je suis assez éclectique, hein. J'écoute plein de choses. La musique c'est pas ultra important pour moi, mais bon, de temps en temps j'en écoute quand même pas mal. Mais voilà, donc c'était plutôt ça.
Alors, est-ce que tu peux présenter un petit peu qui est Alexandre Voisine aux gens qui ne te connaissent pas?
Alors, donc, j'ai 45 ans bientôt. Donc, j'habite dans le Nord depuis une vingtaine d'années. Et je suis arrivé dans le Nord pour travailler chez Decathlon au vélo. Donc, je suis designer produit pour le VTT. Principalement sur la partie cross-country. Donc, tous les produits cross-country de la marque, voilà, je travaille là-dessus. Donc c'est plutôt cool. Et puis
c'est quoi exactement le cross country?
Cross country c'est une des disciplines du VTT. Disons que c'est un sport olympique. C'est en gros c'est une course, c'est le sur un circuit et c'est le premier arrivé à la fin qui remporte la course. Mais bon voilà, ça a pas mal évolué récemment. C'est de plus en plus technique, c'est de plus en plus spectaculaire. Puis il y a aussi le cross-country marathon, il y a les cross-country par étapes aussi, donc ça bouge pas mal. C'est pas un sport trop figé, et c'est vraiment intéressant parce que c'est plutôt très technique. Les vélos évoluent bien. Enfin, c'est un produit et un sport très sympa.
Et du coup, tu fais quoi au sein de Decathlon pour ce type de sport?
Donc, je suis en charge du design de ces produits. Donc, c'est pas que les vélos, c'est aussi les sacs, les vêtements, différents accessoires. Donc, c'est assez global. C'est ce qui est plutôt sympa. Et donc, si je travaille sur un vélo, je vais dessiner un nouveau cadre avec conjointement avec des ingénieurs. Je vais modéliser. Il y a pas mal d'allers-retours. Et puis voilà, ça petit à petit. Enfin, il y a un process particulier jusqu'à temps d'avoir un prototype qu'on teste et puis qui après produit. pour être vendu dans nos magasins.
Parce que c'est quelque chose qui mérite d'être rappelé, c'est que toute la conception est faite à Lille.
Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, on est une équipe de OVTT, on est une cinquantaine, donc divisée en différentes équipes selon les produits. Et moi, je suis dans une petite équipe cross-country, et donc voilà, c'est comme ça qu'on est organisé. Donc là, bon bah, avec ce qui se passe, voilà, on est un peu dans, parce que là en ce moment, je suis au chômage partiel.
Ouais, bah, c'est ce que nous a dit Camille aussi, qui elle est du coup chez Triban. Ouais. Alors je suis pas sponsorisé par Decathlon, je tiens à le préciser.
Non, mais on est nombreux hein, quand on creuse. Ouais.
Ouais. Et ouais, vous avez été mis en confinement quasiment une semaine après le début du confinement, je crois que c'est ça.
Ouais, assez vite, ouais. Et je crois qu'on n'est pas prêt d'aller travailler encore, parce qu'on même en télétravail, c'est pas super simple quand t'as les enfants et tout. Donc voilà, pour l'instant, je pense qu'il y a un peu une réorganisation en interne. On a des points réguliers pour savoir, mais je sais pas du tout quand je vais reprendre. Donc je pense que voilà. On verra.
On reviendra un petit peu plus tard sur le confinement, évidemment, mais j'aimerais qu'on complète le portrait, parce que je sais que t'es un vrai mordu de vélo, et je sais que Decathlon n'est qu'une corde à ton arc. Tu fais beaucoup d'autres choses dans le vélo.
Oui, c'est vrai que c'est moi. Enfin, je suis passionné depuis l'âge de 14 ans, donc je faisais du VTT, et puis petit à petit, c'est vrai que je me suis intéressé à tous les types de vélos. Puis il y a le gravel qui est arrivé, donc c'est ça qui a pas mal, qui a toujours des répercussions sur ce que je peux faire maintenant. Donc comme on organise la Malteni Bootleggers, donc la course, j'appelle pas gravel mais plutôt Ultra CX qu'on organise tous les ans. Alors cette année, elle a fait les frais du confinement, mais pour l'instant on la reporte au 18 juillet. Donc on est plutôt confiant. On verra comment ça évolue. Donc c'est une course pour qui elle a pas trop besoin de pub, parce que toutes les places sont prises en quelques minutes à chaque fois. Mais disons que c'est une course qui reprend le meilleur de tout ce qui est le Tour des Flandres, de Paris-Roubaix, et mêlé à ça avec des zones très off-road, de la forêt, donc pas mal de pavés forcément, des terrils, donc qui sont aussi une emblème du Nord-Pas-de-Calais. Donc c'est une course qui est très longue. Cette année, elle fait 261 km. Et elle est réputée comme dure. Donc, nous, c'est un peu notre credo dans ce type de d'événement vélo. Et ça a l'air de plaire. On croise les doigts pour qu'elle ait lieu en juillet.
D'accord. Donc la différence entre ultra CX et gravel, finalement, il y en a pas beaucoup en fait. CX c'est pour cyclocross, ouais. Et ultra, j'imagine, c'est que c'est un peu plus long qu'une course de cyclocross, quoi.
Ouais, c'est du cyclocross marathon. Donc, parce que le gravel, en fait, j'ai déjà expliqué, mais c'est trop restrictif, parce que la deuxième année de cette course, on a fait, on l'appelait gravel. Et plein de gens sont arrivés en pensant qu'ils allaient faire que du gravel, alors qu'il y avait des trucs très techniques. Et donc du coup ils étaient perdus, ils disent ouais mais c'est pas possible, c'est pas ça, donc on veut plus trop employer ce terme, même s'il y a pas mal de gravel sur le parcours. Voilà, c'est plus que ça. Derrière, des gens qui ont pas forcément un background VTT ou un peu plus technique, ils seront pas forcément favorisés, donc c'est pour ça qu'on insiste là-dessus. C'est plus que du gravel.
Et qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de comme ça, d'organiser une course?
En fait, ça fait longtemps. Hein. Nous, ça fait, avec deux trois potes, ça fait 7 ans, je crois, qu'on avait monté des gravels sans le savoir, en fait, ou des ultra CX. On avait bidouillé des vélos, un peu des 4 VTT qu'on avait transformés en 700, même on était en fixe à l'époque. Et on roulait, on faisait toutes les randos, on faisait tous les trucs qu'on faisait en VTT. Puis on a dit, mais en fait, on va vachement plus vite qu'avec des VTT. Et donc, puis petit à petit, c'est arrivé, ça s'est démocratisé, et puis est arrivé le terme gravel peut-être 2 ou 3 ans après. Donc nous, on parlait d'ultra CX entre nous, donc c'est pour ça qu'on l'a gardé, parce que ça existait déjà aux États-Unis. Quoique là-bas les ultra CX sont quand même aussi très roulants, parce qu'aux États-Unis c'est toujours très roulant, mais donc c'est arrivé de là. Et un jour je me suis dit avec William et Clem, s'est dit, mais il y a un truc à faire, il y a dans le coin, on peut réunir tous ces, le meilleur de toutes ces zones, on peut les réunir en une course. Donc c'est ce qu'on a fait et le succès, il était immédiat.
Et donc il y a pas de sectarisme finalement, parce que je sais que t'es un mordu de VTT et là te voir organiser une course de gravel, c'est génial.
J'adore le VTT, mais c'est pas forcément le vélo idéal dans le Nord. Enfin c'est bien, c'est confortable, etc. Mais si tu veux aller vite et loin sur ce type de parcours, c'est quand même un gravel ou ce que tu veux, un ultra cyclique, qui est quand même le mieux placé. Bon, hormis certains vélos cross-country ultra light, on pourrait toujours comparer sur des segments quel est le plus rapide ou pas, mais c'est une autre philosophie. C'est des vélos un peu plus simples normalement, pas de suspension, etc. Donc moi j'aime bien la philosophie, j'aime bien le look de ces vélos aussi. Donc c'est on restreint quand même, hein, on peut pas faire cette course en VTT parce que sinon ça va vite être un peu n'importe quoi. Donc certains nous le reprochent, d'autres disent non, vous avez raison, donc bon, peu importe, de toute façon c'est toujours plein, donc on va pas se battre.
Oui, et puis il y a suffisamment d'événements un peu partout. Ouais. Et du coup c'est une course de vélo à la fois, mais j'ai l'impression qu'on boit des bonnes bières aussi ces courses. Tu vois la transition, oui, alors, elle est pas trop.
La Meltenie, nous on arrête la Meltenie parce que c'est on a un peu fait le tour de la question. Le marché de la bière, il est quand même ultra ultra saturé. Donc
On peut rappeler juste en introduction que donc tu avais cofondé la brasserie Malteni,
Juste une marque, hein, c'est pas nous qui brassions la bière. On travaillait avec une brasserie en Belgique. Donc c'était super, hein. Franchement, ça nous a apporté plein de choses. On a fait des trucs dingues avec cette bière. On a sponsorisé un gars en Coupe du Monde de cyclocross. Enfin, des trucs qu'on n'aurait jamais imaginé. C'était super. Mais là, on s'est dit, on a fait le tour. Perso, avec William Lanigan, avec qui je fais ça, et lui, il était un peu pareil, il était un peu débordé avec le boulot, etc. Donc on avait plein de raisons d'arrêter. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une nouvelle brasserie dans la métropole lilloise qui va reprendre la Meltenie. Donc ça se sait dans le coin, mais c'est pas vraiment officiel. Mais à l'occasion de la course, justement, il y aura la nouvelle Meltenie à déguster. Donc ça sera l'occasion d'officialiser la chose.
Ah super, donc elle sera pour le coup, elle sera vraiment faite à Lille cette fois-ci et ça sera de la microbrasserie.
C'est ça. Ouais. Et je l'ai goûtée, elle est vraiment bonne. Ça sera toujours bio, enfin voilà, ils ont fait ça bien. Mais pour l'instant, on n'officialise pas, enfin certains savent, mais pas tout le monde.
Et c'était quoi ce pari de lancer une brasserie, plutôt une marque de bière avec un nom de comme ça qui a beaucoup de sens
en fait,
pour des cyclistes.
Avant de faire la bière avec mon pote William, on avait eu cette idée il y a 7-8 ans on faisait des tours, on faisait un peu tour opérateur sur les pavés de Paris-Roubaix et du Tour des Flandres. C'est-à-dire on accompagnait des gens, des groupes surtout d'anglo-saxons qui venaient rouler dans les monts des Flandres, sur les 100 derniers kilomètres de Paris-Roubaix. Donc parce que c'est vraiment deux courses qu'on adore. Donc on avait fait ça. Enfin, on le fait encore ponctuellement. On devait le faire là ce week-end d'ailleurs, mais on peut pas. Donc on le fait un tout petit peu de temps en temps, mais c'est assez chronophage. Donc on essaie d'éviter de trop empiéter sur la vie de famille aussi. À des moments on l'a fait beaucoup. On a organisé une semaine entière avec Velominati. Je sais pas si tu connais. C'est un groupe un peu virtuel. Où il y a pas mal d'Américains, d'Australiens dans ce club. Et puis un jour on s'est dit, William il me dit, on pourrait faire une bière. Il y a une brasserie pas loin d'où on habitait. On va le voir et il avait l'idée et puis il dit on pourrait faire la Meltenie. Je trouvais ça marrant aussi. Donc on l'a faite. Hein, le brasseur nous a fait nous a dédié des bouteilles à lui et puis on collait les étiquettes. Ouais, on faisait puis avec le bouche à oreille, ça s'est vite répandu dans la communauté vélo. Tout le monde trouvait ça assez marrant. En plus, la bière était de qualité, donc Et puis petit à petit, ça a pris. Alors le but, c'était pas d'en vivre, hein, c'était vraiment c'était notre jouet un peu. Mais voilà, ça nous a fait faire plein de choses, de déplacements, de on a eu des stands dans des sur des événements, des choses comme ça. Donc c'était vraiment vraiment sympa. Donc on regrette pas, même si on arrête, ça fait toujours un peu drôle, mais en même temps, vaut mieux ça avant que ça devienne vraiment pénible à gérer.
Parce que Malteni, bon, tout le monde voit ce, enfin tout amateur du Tour de France voit ce nom-là, mais ouais. Moi personnellement, je sais pas trop ce que c'était. Tu peux peut-être nous en dire plus.
Ouais. En fait, dans les années 70, Merckx roulait dans l'équipe Molteni, donc c'était le fameux maillot Havane et bleu qui est écrit Molteni. Donc c'est avec ce maillot qu'il a gagné énormément de classiques et de grandes courses. Donc c'est un maillot mythique. Et bah dans la bière, il y a du malt, donc on a croisé les deux, Molteni et le malt, c'est devenu Malteni. Donc c'est vrai que quelqu'un qui connaît pas bien l'histoire du cyclisme, il va pas forcément percuter. Par contre, bon, souvent quand on était dans des endroits avec beaucoup de cyclistes, bah trouvaient ça super top. Donc la bière, on la vendait comme un peu comme souvenir au musée du Tour des Flandres. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça qui coulait de source un peu pour des purs passionnés mais d'autres l'achetaient aussi pour les qualités gustatives et puis les qualités du produit.
Parce que d'une façon générale, tu aimes bien rendre hommage à l'histoire du cyclisme, parce que moi je t'ai rencontré donc sur le shooting de vélo urbain pour parce que tu étais un spécialiste du Grand Bi, notamment champion du monde du Grand Bi à l'époque.
Champion d'Europe.
Champion d'Europe, pardon. Voilà. Excuse-moi. Donc tu étais champion d'Europe de Grand Bi à l'époque. C'est quoi un Grand Bi?
Alors le Grand Bi, c'est vrai que ça c'est un. La première fois que j'ai vu quelqu'un rouler dessus, ça m'a séduit tout de suite. C'était un papy à Amiens qui apprenait aux gens un peu à en faire, et je me suis dit un jour si j'en trouve un, j'en achète un. Et puis, de par mon boulot, j'en ai trouvé un en allant sur des salons de vélo. J'ai trouvé un mec qui faisait des répliques, donc j'en ai acheté un assez vite. Donc, ce sont des vélos qui ont été inventés en 1871 jusque dans les années 1890-1895. Donc, c'est les fameux vélos avec une très grande roue devant et une petite roue derrière. Donc c'était le vélo de l'époque, hein. C'était bon, tout le monde ne roulait pas là-dessus parce que c'est quand même assez dangereux. Mais voilà, c'était les vélos de course de l'époque. Donc et j'ai toujours trouvé l'objet très très chouette. Et puis à rouler, c'est une expérience totalement différente. Donc voilà, c'est pour ça que je roule toujours avec. Là d'ailleurs, fin mai, il y avait les championnats du monde prévus à Ostende, donc pas loin de chez moi, là en Belgique. Donc forcément, c'était prévu, mais bon, c'est annulé, c'est reporté à l'année prochaine, donc je devrais être patient. Et en plus, j'ai un pote que je connais qui est suédois, qui a créé une petite marque de Grand Bi et qui m'a demandé de rouler pour sa marque. Donc là, j'ai eu un deuxième Grand Bi qui est encore plus rapide, avec une roue encore plus grande, enfin un super.
Ah mais c'est ça, j'ai vu sur ton compte Instagram qu'il y avait deux Grand Bi, un blanc et un noir.
Donc là j'étais en train de bidouiller des trucs et là j'ai le temps, j'ai un an maintenant pour le faire. Mais bon, c'est marrant, les courses c'est toujours assez drôle, c'est quand même très dangereux, mais bon, on fait attention entre nous. Mais c'est intense, franchement, c'est vraiment vraiment intense. Là, les dernières courses que j'ai faites. Et la finale, on était à 32 moyenne pendant je sais pas combien de kilomètres, mais pendant c'est un peu des critériums, hein. On fait des tours de pâté de maison, mais c'est vraiment c'est vraiment rude, mais donc c'est j'aime bien, c'est vraiment
parce que là c'est plus que du pignon fixe puisqu'il y a plus de pignon.
C'est un peu du pignon fixe, mais il y a pas de frein non plus, sauf que la transmission est à l'avant, donc il faut faire un peu attention enfin il y a une grosse inertie, donc tu peux pas freiner la roue comme tu le ferais avec un pignon fixe, parce que sinon déjà faudrait avoir des sacrées cuisses et puis ça serait le soleil assuré. Mais Ouais, bon, c'est vrai que ça ressemble pas mal aux pignons fixes hein, dans les sensations, sauf que bon, voilà, on pédale à l'avant, donc c'est particulier, mais puis on peut prendre. Ce qui est marrant, c'est qu'on peut prendre vraiment beaucoup d'angles quand on va vite, donc c'est impressionnant, et c'est pour ça que les gens aiment bien voir les courses, parce que c'est vraiment impressionnant. J'ai fait des courses. Alors, il y a une course qui n'existe plus, qui était la London Nocturne, qui était tous les ans au mois de juin à Londres. Donc, il y avait 10 000 spectateurs qui venaient voir différentes courses, différents critériums, toute une après-midi, toute une soirée. Et une des courses phares, c'était la course de Granby. Alors, j'ai réussi à la gagner une année, enfin. Et c'était dingue. Enfin, il y avait 10 000 personnes qui t'acclament et qui sont comme des fous parce que, bah, ils trouvent ça hyper, hyper impressionnant. Et la course était très disputée. C'était un super niveau. Donc, voilà. Il y en a pas beaucoup, mais quand on peut, j'essaie de les faire.
J'ai une question con, tu m'excuseras. Comment tu fais pour mettre le grand bi sur le home trainer?
Là, j'ai pas essayé sur des rouleaux, ça peut se faire, mais bon.
Ah, peut-être,
ouais. Mais bon. Ah ouais, c'est un truc à tenter, ouais. J'ai pas de rouleau, j'ai que un home trainer, mais là, il faudrait le mettre à l'envers, je sais pas, enfin, il faudrait trouver un truc.
Il y a des courses de grand bi en France ou c'est...
Il a failli en avoir une année à Anjou Vélo Vintage, mais ce jour-là, il pleuvait des cordes, donc ils l'ont annulé. Donc je devais la faire, mais je pense pas. C'est toujours en Belgique ou en Angleterre ou en là il y a un événement en Suède, mais je pense qu'il va devoir. Je sais pas s'il l'annule parce qu'en Suède ils sont plutôt épargnés. Mais c'est il y en a pas des tonnes, hein, mais c'est surtout en Angleterre qu'il y en a beaucoup et en Europe de l'Est aussi. Les Tchèques ils sont pas mal là-dedans. Puis beaucoup en Australie, aux États-Unis.
Et le Grand Bi a assez vite disparu dans l'histoire du vélo hein, parce qu'il a été remplacé par la bicyclette de sécurité. Hein, je cite. Ouais. C'est si dangereux que ça un Grand Bi. Est-ce que toi t'as vu des cartons ou est-ce que même toi t'as eu un carton déjà sur un Grand Bi?
Ouais,
parce qu'à l'époque on pouvait en mourir. Je sais qu'il y avait des. Enfin, ouais. L'histoire dit qu'il y avait des morts en Gambie.
Ouais, dans les journaux le lundi matin il y avait la rubrique Killed by the Wheel. C'était tous les gars qui étaient morts en vélo pendant le week-end. Mais bon, ils étaient un peu tarés parce qu'ils étaient pas vraiment conscients du danger. Moi, j'ai lu pas mal de bouquins sur le Gambie à l'époque et les gars ils partaient dans des descentes et ils fonçaient dans des buissons pour s'arrêter. Enfin, c'était n'importe quoi. Donc forcément, il y avait un peu une sélection naturelle qui se faisait. mais oui, moi je suis tombé deux fois. Alors, mais ça fait longtemps. J'avais un Grand Bi un peu plus petit à l'époque, mais bon, c'était quand même haut. Bon, je me suis jamais fait mal. Mais par contre, j'ai vu des crashs ouais, sur des courses. Il y en a régulièrement. Il y en a un assez connu sur Internet en cherchant. Il y en a un impressionnant d'un papy qui fait une descente, les jambes sur le guidon. Donc il contrôle plus rien et il sait descendre et il va tellement vite que la bande de roulement, parce que c'est pas un pneu, hein, c'est une bande de roulement, elle se désolidarise de la jante et le gars il glisse sur la jante, il tombe dans le fossé. Mais en plus avec un original, un vélo qui a 140 ans, mais il se fait pas mal, mais elle est vraiment impressionnante. Et il y a quelques années, il y avait un jeune Autrichien. Était passionné de vieux vélo, qui faisait toutes les courses. J'ai jamais réussi à le battre. Le gars, il roulait sur un original qui pesait 10 kilos. Enfin, vraiment une super belle machine. Donc vraiment, bon, là aussi, hein, le vélo, il joue beaucoup. Mais le gars, bon, il avait la moitié de mon âge, donc il arrivait à bien gérer au niveau physique. Et j'étais pas à cette course, mais lui pareil, il a eu le même problème sur un sprint, il était lancé à pleine vitesse et pareil, sa bande de roulement est partie de la jante et ça l'a bloqué, il est tombé, il est franchi la ligne complètement éclaté par terre. Et depuis ce jour-là il a arrêté les courses parce qu'il a trop eu peur, donc dommage. Mais
ah ouais, à ce point-là.
Je l'ai vu en vidéo, la chute. Je pense on peut la trouver sur Internet, mais elle fait vraiment flipper. J'ai pas envie que ça m'arrive. Parce que là, tu tombes de très haut. T'as le temps de te dire, ah, ça y est, je vais tomber.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que si c'est tant dangereux, c'est que tu tombes de beaucoup plus haut qu'un vélo normal, quoi.
Ouais. Ouais, ouais, bah c'est ça. En fait, c'est la hauteur qui rend le truc dangereux. Donc, nous entre nous en course, on fait attention, mais c'est vrai que des fois, c'est un peu limite avec la fatigue. Moi, je sais que à London Nocturne, la dernière course que j'avais faite là-bas, bah, c'est l'année où j'ai gagné. Au dernier virage, il y a un Anglais qui frotte un peu, et j'ai passé le dernier virage avec un seul pied. Donc, bah, quand t'as plus qu'un seul pied sur la transmission, c'est difficile de freiner. Donc, j'ai passé le virage vraiment au ras des balustrades, et alors c'est peut-être ce qui m'a aidé. J'ai eu plus d'élan, mais ouais, c'était chaud. Ça aurait pu mal finir. Mais.
London Nocturne n'existe plus, tu dis?
Bah non, c'est une course qui doit demander quand même pas mal de moyens, je pense, et il y avait toujours un gros sponsor. Il y a des années, c'était Rafa, et je pense que là, ils ont eu des problèmes de financement, et elle a pas eu lieu l'année dernière et cette année, je crois. Donc, peut-être qu'elle reviendra parce que.
Ouais, c'est mythique, ouais.
Apprécié, elle était bien. Il y avait plein de courses, des courses de Brompton, il y avait des pros, un critérium de pros, il y avait du fixe, il y avait plein de trucs.
Il y a eu une année du fixe.
Ouais, peut-être, ouais, c'est vrai que, ouais.
Il y avait le Tweed Run aussi pendant la Nocturne.
Ah, non.
Non?
Non, c'était un autre,
ah, okay.
Une autre date.
Du coup, tu participes comme ça à au Tweed Run ou à des événements?
Ça fait longtemps. Bah, j'ai pas mal fait le Anjou Vélo Vintage. Là, je l'ai pas fait depuis quelques années. Et c'est vrai que je l'aurais bien fait cette année, mais par contre, je pense qu'ils vont l'annuler parce que c'est encore avant mi-juillet. Donc, je pense que ça va pas être possible. Et je l'aurais bien fait parce que moi, j'ai un autre vieux vélo, j'ai un 1910, là, un fixe, vraiment les vélos de course de 1910, donc, très simple, hein. Et j'aime bien rouler avec celui-là sur là-bas parce qu'il y a les parcours sont plutôt sympas. Enfin, j'avais fait l'Heroica deux fois aussi avec ce vieux vélo de 1910, donc les 200 bornes. Donc c'est une bonne journée à vélo avec ce truc-là parce que dans les montées, bah tu forces et dans les descentes tu moulines. Donc c'était ouais, c'était deux super souvenirs avec l'Heroica avec ce vélo.
Bon, bah écoute, on a parlé de VTT, on a parlé de gravel, on a parlé de Granby. J'ai cru comprendre que tu avais une petite passion aussi pour le cargo, ou alors sinon je me trompe, parce que tu voyages avec, ou tu fais des week-ends, je sais.
Ouais, ouais. Le cargo, après, c'est différent, parce que c'est plus un mode de transport pour moi. Enfin, je trouve que... Bon, ça fait 6 ans, je crois, que j'en ai un, 5 ou 6 ans, je sais plus, et... je m'en servais plus pour des petits trucs, mais maintenant c'est mon vélo de tous les jours, je fais tout avec. Mon but c'est d'utiliser le moins possible ma voiture, on peut vraiment tout faire. Je pense que j'ai de la déchetterie à faire les courses aux enfants.
Enfin, j'ai vu que t'as fait le Ventoux quand même avec.
Ah oui, j'avais fait le Ventoux, ouais. Ouais. Bon, c'était une préparation parce que j'avais fait l'étape du tour avec. L'étape du tour, c'est pas le truc qui me fait le plus. J'en ai fait plein, mais je me suis dit bon, j'ai pas envie de la faire normale. Je me suis dit allez, le challenge, ça va être de le faire en cargo. Donc ça l'a fait. Mais comme quelques mois avant, j'étais près du Ventoux, je disais bon, je vais faire au moins une première montée avec ça, voir comment le truc réagit. Est-ce que je m'aventure pas dans un truc complètement débile? Et puis bon, ça l'a fait, mais c'était marrant. Je l'avais fait avec une grosse bouteille gonflable de Malteni devant, dessus, avec la bouteille qui a gonflé avec l'altitude.
Ah mais oui.
j'avais vraiment peur qu'elle explose tellement elle était gonflée au sommet. Puis dans la descente, elle a dégonflé. Donc du coup, les sangles s'étaient détendus, donc la bouteille s'est décrochée dans la descente. J'ai dû la remettre. Enfin, c'était assez comique.
Alors j'ai vu sur Instagram que tu emmènes beaucoup tes vélos aux quatre coins du monde. Est-ce que tu fais pour autant des voyages à vélo ou
Oui, bah c'est un truc que j'aimerais faire plus. Après c'est pas forcément simple dans mon emploi du temps parfois. Mais j'adore tout ce qui est bikepacking. J'en ai fait bien avant que ça soit des trucs itinérants. J'en ai tous les ans avec quelques collègues. On se faisait 9 jours de raid VTT. Donc j'en ai fait plein dans différents coins de la France, et puis régulièrement j'essaie de partir, de faire ce genre de truc. Après j'aimerais en faire plus, mais c'est compliqué à compliqué à faire. Mais j'avais fait un trip en cargo une année. Bon, c'était un délire pour rejoindre le Alain Puisieux de 200. En fait, c'était pour lui livrer une caisse de bière à Volvic. C'était un peu le challenge. Donc, j'étais descendu du Nord en cargo. Là, j'ai fait en 2 jours et demi, j'ai fait le trajet. Et pareil, c'était un super souvenir. Le cargo, là, pour ça, c'est pratique parce que c'est vrai qu'on peut tout mettre. Alors, c'est un peu lourd, mais voilà, on a tout le confort. J'avais la tente, j'avais tout ce qu'il fallait. Et puis, c'est un truc, j'ai un projet comme ça de refaire un trip en cargo. Je sais pas quand je le ferai, mais j'ai déjà le thème, plein de choses, mais il faut juste que je planifie ça et que je précise un peu la route.
Ton cargo à toi, c'est un Bulit, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Mais effectivement, c'est pas le plus léger, quoi.
Ouais, mais il est équipé très sport, là. Donc, il est plutôt dynamique, tu vois. J'ai mis une route 700. Il est équipé comme, il a un cintre de route. C'est comme un vélo route, en fait. Donc, je suis même en DI2, hein, t'imagines.
Ah ouais? c'est un Bulit, haut de gamme.
Ouais, bon, je l'avais acheté en cadre nu et puis j'avais quelques composants que petit à petit j'ai mis dessus. Donc, c'est vrai que même si on met beaucoup de poids, je pense que c'est quand même important d'avoir une position sportive et parce que je vois des cargos avec des positions de vélo landais, je me dis mais quand t'es chargé, mais comment tu fais, enfin c'est juste pas possible. Donc là au moins j'ai l'impression d'aller aussi vite qu'avec un vélo normal. Un cargo quand il est lancé, il va aussi vite qu'un route normal, c'est juste les montées et les relances qui sont plus dures, mais j'ai les mêmes sensations, même de meilleures, tellement quand j'ai fait l'étape du Tour, les descentes, personne m'a doublé, c'est un pur bootleg le vélo, donc c'était mais grisant, et c'était un truc incroyable. Le vélo, tu peux prendre de l'angle, en montagne, c'est vraiment vraiment impressionnant.
Du coup, c'est quelque chose que tu conseillerais à, par exemple, une famille qui voudrait voyager avec son enfant ou tout simplement des gens qui voudraient voyager chargés.
Alors, pour voyager, je sais pas, parce que, en famille, oui, peut-être c'est pas mal. Avec un enfant, ouais, c'est parfait parce que c'est le centre de gravité est plus bas, tu peux mettre toutes ses affaires à côté. Enfin, moi, je le fais avec mon fils. Là, ça m'est arrivé de faire des week-ends où on part, c'est un peu du flashpacking, là, on part le samedi midi et puis on revient le dimanche midi. Et c'est super, tu peux rouler avec lui, lui il est tranquille dedans, il fait sa sieste et puis tu te poses le soir et puis tu repars le lendemain matin. Donc ça c'est plutôt sympa. Mais du long voyage, je pense qu'il y a quand même des vélos mieux pour ça. Parce que c'est quand même très lourd, hein. Moi quand j'avais fait Bon, j'avais une caisse de bière, mais mon vélo, il faisait 60 et quelques kilos, donc c'est quand même dans les montées, il fallait avoir un petit braquet, sinon c'était un peu douloureux.
Et tu parlais de tes destinations que tu as faites en France, tu peux nous donner un petit peu des idées de ce que ça a pu être ou
En France, bon, il y a tellement d'endroits. Après, moi, c'est surtout en VTT que j'ai plus bougé, enfin aussi en route, mais principalement en VTT. Moi, il y a des spots que je préfère, c'est quand même dans le sud de la France, c'est c'est l'Estérel, les Morts, toutes ces zones-là, c'est pas forcément de la haute montagne, moi j'adore les paysages un peu du sud, le Roc d'Azur. Alors le Roc d'Azur, c'est un peu particulier parce qu'il y a énormément de monde, mais quand il retourne hors course, c'est des super spots, il y a des chemins de dingue, enfin des singles de rêve. Dans l'Estérel, pareil.
Massif des Morts.
C'est vraiment là que j'aime bien rouler. Ouais, et quand on avait fait des raids, on était passé dans ces zones-là. Enfin, on avait traversé les Pyrénées. On avait fait plein de choses. Mais j'aime bien le côté pas forcément hyper haute montagne, même si j'aime bien. Mais je préfère ces paysages de. L'Estérel, pour moi, c'est vraiment ce que je préfère. Et ma course préférée, c'est la Trans-V. Donc c'est une course plutôt certains disent c'est le cross country des descendeurs. En fait c'est une course qui a je sais plus 30 ans je crois maintenant c'est une des courses les plus extrêmes qui existent qui part de l'arrière pays niçois du Mercantour et qui finit à Nice Et donc ça descend principalement, mais entre les descentes, il y a énormément de montées. Et les descentes sont ultra techniques, c'est hyper dangereux. Enfin, mais c'est ma course préférée. Ça doit être une. Je l'ai faite une dizaine de fois et cette année, pareil, elle a été repoussée. Peut-être que je pourrais la faire, on verra. Et j'ai même un projet là avec un pote. J'ai branché un pote. C'est de la faire en mode bikepacking, c'est-à-dire de monter. Depuis Nice et le lendemain de faire la course, de dormir sur la ligne de départ et le lendemain matin on repart dans l'autre sens. Donc c'est un bon petit week-end bien chaud, mais ça peut vraiment être sympa de faire ça.
Et ça tu fais ça avec quel vélo du coup?
Alors bon, le vélo pour faire une trans V c'est un tout suspendu, hein, c'est là y a pas de secret. La dernière que j'ai faite en semi rigide mais avec en 27 plus. En 29 devant, en 27 plus derrière. Bon, ça se fait, hein. Bon, j'ai quand même crevé, j'ai bien galéré. D'habitude, je crève pas trop, mais là, j'ai pas eu de chance. Mais honnêtement, il faut un tout suspendu. C'est rien que par sécurité, c'est parce qu'avec la fatigue, c'est vraiment une des courses où t'en es à espérer que ça monte tellement les descentes sont violentes et dangereuses. Donc c'est voilà, il y a quasiment 95% de tout suspendu parce que c'est voilà, il y a pas de secret.
Parallèlement à tout ça, donc on voit que tu es vraiment passionné de mécanique et de machines. Tu as été, je crois, l'année dernière jury du concours de machines. Donc c'est le concours des artisans encadreurs de fabricant de vélos en France. Comment ça s'est présenté cette opportunité et quel est ton rapport à toi par rapport au vélo fabriqué de façon artisanale, puisque toi tu travailles pour produire des vélos de façon industrielle?
Oui, alors c'est vrai que c'est un peu paradoxal, mais
j'ai pas dit ça, je trouve pas.
Ouais, non, mais c'est mais justement. Quand on adore à ce point-là le vélo, chez les artisans, il y a quand même des choses que tu peux pas faire autrement, enfin ailleurs. Et puis moi, c'était un peu avant qu'on fasse nos week-ends sur les pavés. J'avais fait un Lille Nantes à vélo. Je suis nantais, donc j'étais allé chez mes parents et je suis passé devant Sifac et je connaissais Sifac et et je dis, ah tiens, ils sont là, et ça m'a donné l'idée. À cette époque-là, je faisais du pignon fixe et je me suis fait faire un pignon fixe chez eux. Et c'était le moment un peu après qu'Emeric ait repris le CIFAC. En fait, j'étais un des premiers des jeunes à vouloir faire un vélo chez eux. Donc un pignon fixe, voilà, ils l'ont fait, j'étais super content, je l'ai toujours, hein, je m'en sers encore beaucoup. Le truc, il est increvable. Et puis à partir de là, c'est vrai que j'ai vu, je dis, tiens, c'est super, on peut se faire un vélo vraiment comme on veut. Je dis, je veux ça, et je veux qu'il soit peint comme ça, je veux tel truc. Enfin, tout est faisable. Donc, et puis petit à petit, j'ai refait un autre vélo, mon Ultra CX. Là, c'était un gravel Ultra CX en inox. Donc j'ai fait faire chez Sifac. Donc pareil, lui, il a 7 ans, je crois. Alors, il y a eu un peu de casse, mais ce qui est bien aussi c'est sur ces vélos, c'est que tu peux les faire réparer. Donc parce que l'inox, quand il s'en prend un peu trop, il a du mal à résister. Mais voilà, mon vélo, il est comme neuf, il est tout repeint, il a été réparé. Et puis après, on a pour la flotte pour nos vélos sur les pavés, on a fait une flotte de 7 ou 8 vélos Sifac. Donc on en a un paquet. On est des bons clients. Et mon pote William, il a un tandem inox. Et un des plus beaux tandems du monde. et il s'en est refait un nouveau, un gravel en inox aussi. Donc voilà, à force, moi j'adore un peu ce que font tous ces artisans. Et puis en plus, moi j'habite tout près de Roubaix, donc je vais être à 3 ou 4 kilomètres de l'atelier de la fraise d'Andreas Behrens. Et ma femme, il y a 2 ans ou je sais plus quand, m'a payé un stage pour fabriquer mon vélo chez lui, parce que lui il propose ça. Donc en une semaine, tu tu conçois et tu fabriques ton vélo toi-même sous sa direction, sous ses conseils.
C'est-à-dire qu'il t'apprend à fraiser, il t'apprend à couper les tubes, tout ça.
Voilà, tout. Ouais, t'arrives le lundi matin, t'as rien, et le vendredi soir ou le samedi midi, t'as un cadre fini ou quasi fini prêt à peindre. Donc c'est une super expérience et c'est vrai que ça donne plein d'idées. Et puis pour revenir au concours de machines, comme je connaissais des personnes, je crois que c'est Alain Puisieux qui organisait l'année dernière et il m'a demandé si je voulais être membre du jury. Donc moi j'ai dit ah ouais super, c'est vraiment le truc. Puis j'ai adoré cette expérience parce qu'il y avait une qualité et puis le cahier des charges était assez complexe et les réponses étaient vraiment vraiment pertinentes assez souvent. Puis ça permet de découvrir des nouveaux artisans. Ils ont tous un état d'esprit tous très différent. Enfin, c'est hyper varié. Donc là, pendant deux jours, je crois, j'ai vu passer une trentaine, pas loin, d'artisans qui expliquaient leur machine et puis après ils sont partis faire le Paris-Roubaix, le Paris-Brest-Paris. Donc j'étais pas là quand ils sont revenus, mais bon après j'ai vu un peu les résultats. Et
parce que la particularité du concours en France, c'est vrai que en plus du concours entre les machines, il y a aussi une épreuve pendant laquelle ils roulent leur vélo, quoi. Et donc l'année dernière, c'était Paris-Brest-Paris.
Paris-Brest-Paris. Ouais, l'année dernière, il fallait faire une randonneuse qui, si possible, se plie. Alors ça, c'était vraiment le point du cahier des charges que tout le monde n'a, que pas tant de personnes que ça ont respecté. Mais c'est quand même pas évident de faire un vélo performant et démontable ou pliable. Donc c'était un gros challenge. Ceux qui l'ont fait, ils sont dans les premières places et en plus ils ont fait des super produits. Donc ouais, c'est bien que le vélo aussi roule. C'est pas juste un vélo vitrine. Là, il faut qu'il prouve ses performances et puis aussi s'il est capable de résister.
Et un crack inventeur. Pas croyable. Regardez, guidon réglable en hauteur et guidon réglable en profondeur.
Tout ça nous emmène. On a bien profité du temps qu'on avait, donc ça c'est super. On arrive à notre sujet principal, hein, au bout de 42 minutes, qui est ce fameux confinement. Alors, tu peux peut-être nous dire un petit peu tu nous disais tout à l'heure que tu as été très vite, toi, en chômage partiel. Comment ça s'est passé pour toi? Qu'est-ce que tu as mis en place pour t'occuper? Parce que tu étais toi-même, je crois, hein, tu avais l'habitude de t'entraîner sur Home Trainer. Donc ça, tu pourras nous en toucher un mot. Et puis, je t'en prie.
Ouais, donc moi, ça fait... Ouais, on est le 22 avril, donc ça fait plus d'un mois là que je suis à la maison. C'est vrai qu'au début j'ai un peu de mal à y croire, on s'est dit bon ça va pas trop durer, puis là avec les différents échanges on se dit bon ça va être long, mais moi je le prends super bien. Alors même si c'est un moment qui est hyper difficile pour plein de monde, moi au contraire ça m'apaise pas mal parce qu'au moins j'ai du temps pour moi, puis pour ma famille, on permet de respirer un peu. Je sais que à mon avis, ça va être un peu dur le retour parce que il y aura énormément de changements, mais justement, je pense que j'espère que ça sera du changement positif. Donc moi, c'est vrai que par rapport au vélo, je faisais pas mal de home trainer sur Zwift, donc je me suis dit c'est parfait, j'ai bien fait, parce que les premiers jours j'ai été assailli de demandes, me disaient Alex, c'est quoi ton home trainer, c'est sur quoi que tu roules, comment on fait, où est-ce que tu l'as trouvé, enfin j'ai accumulé les messages, je répétais, j'aurais pu faire des copier-coller à tout le monde. Donc même certains qui disaient moi je jure que par le vrai vélo était un peu à genoux en disant vivement que j'ai mon home trainer, et puis Et puis petit à petit, bon voilà, enfin j'ai fait des sorties. Moi j'aime bien faire des longues sorties sur Zwift, parce que les petites hyper rapides, moi ça me flingue. Je commence à être vieux et c'est dur. Donc là ce matin j'ai fait un 107 bornes, j'ai fait le Mega Pretzel, je sais pas si tu connais Zwift. Et donc c'était long, j'ai mis 4 heures et donc 4 heures de home trainer, c'est rude, mais c'est bah voilà, ça permet de faire une bonne sortie, parce que des fois des sorties à bloc, je pense que tu t'épuises plus qu'autre chose. Donc c'était bien. Et en fait moi ce que je
Tu dis t'es vieux etc, mais enfin je crois que tu as quand même fait le, alors ils appellent ça Virtual Everest, en gros tu as gravi 9000 mètres.
Ouais, c'est ça. Alors, ouais, bah, j'allais en venir. En fait, j'ai trouvé. En fait, j'ai un collègue. On s'était pas, on en avait pas discuté. Bah, c'est le mon ingé sur le cross country. Lui, il est roumain. Et un jour, il a dit, ouais, aujourd'hui, je roule pendant 24 heures sur Zwift. Donc, il l'a fait. Il a fait 500 km. Il a roulé 24 heures. Donc j'ai rameuté un peu l'équipe. Je dis, ouais, supportez-le, parce que là, c'est quand même rude, hein, ce qui dans entreprise dans laquelle il est parti, et il l'a fait, voilà. Et puis moi, c'est vrai que je pensais un peu au truc, et ça m'a motivé, du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais... L'année dernière, en fait, j'avais tenté un Everesting, donc c'est-à-dire, c'est un challenge, mais qui est vraiment régulé, qui est officiel, où tu dois monter le dénivelé de l'Everest en une sortie, mais en montant et en descendant, tout le temps, la même descente et la même montée. Donc c'est pas un circuit, tu montes et tu descends, et la même ascension pendant jusqu'à temps que tu arrives à 8848 mètres. Donc c'est complètement stupide, mais voilà, c'est un challenge qui est intéressant. Donc je l'avais tenté en vrai, en VTT. Alors, en VTT c'est très dur et je m'en suis rendu compte. Donc j'ai arrêté au bout de 50 montées et 5200 mètres, parce que j'étais cuit, il faisait trop chaud, la montée était trop raide. Enfin bref, c'était peut-être que j'étais pas prêt aussi. Et donc cette année là, je me suis dit, bah tiens, c'est une bonne occasion de faire un, alors ça s'appelle un Everesting, c'est un virtual Everesting. Donc tu dois faire la même chose, tu choisis une des montées dans Zwift, dans Watopia, et puis tu la fais autant de fois qu'il faut pour arriver au sommet de l'Everest, enfin virtuellement. Et donc là je l'ai tenté, et puis je me suis dit, ah tiens, je vais essayer de lever des fonds. Donc des gens ont donné toute la journée pour ça, donc j'ai recueilli quasi 300 euros. Bon, je m'attendais à mieux, mais c'est déjà bien, je les remercie, ceux qui ont participé. Donc je les reverserai à la Fondation de France prochainement, quand Litchi m'aura débloqué, parce que là ils sont pas très rapides. Et donc j'étais content. C'est une journée. C'est vrai que c'était 17h30 de home trainer, donc c'était long. Je fais 360, je sais plus combien de kilomètres, ouais. Et 9000 mètres pour arriver à un chiffre rond. Donc c'était une journée. Alors j'ai démarré à minuit et demi, donc parce qu'il vaut mieux démarrer très tôt, physiologiquement c'est mieux. Et puis c'est ce qui était sympa, c'est que des potes sont venus, parce que c'est virtuel, mais mine de rien, j'ai au moins je sais pas combien de potes qui sont venus toute la journée rouler avec moi. Il y a même Antoine qui est venu à 4h30 du mat avant de bosser, il est venu rouler une heure avec moi, donc on a fait une visio, enfin c'était sympa. Puis d'autres sont venus, ils m'ont accompagné une ou deux montées, et Clem Chevel qui m'a accompagné à la fin dans les derniers mètres, là quand tu vois le 8848 mètres apparaître, là t'es content parce que ça commence à être loin.
J'imagine, ouais, ça doit t'encourager à pas laisser tomber, d'avoir les potes qui sont là et qui te disent allez.
Ouais, c'est sûr, parce que ouais, à un moment vers le milieu, tu commences à te dire, ouais, attends, ça va vraiment être long, parce que moi la montée que j'avais choisie, enfin pour plusieurs raisons, elle t'oblige à faire plus de kilomètres parce qu'elle est un peu moins raide, donc du coup ça fait énormément de kilomètres et ça te prend plus de temps que si tu prends l'Alpe du Zwift, qui est un peu une réplique de l'Alpe d'Huez dans Zwift. Donc j'avais vachement plus de temps à passer, donc c'était Donc c'est vrai que psychologiquement c'est un peu dur parfois, mais bon, voilà, c'est plus facile qu'un vrai, mais c'est quand même très monotone.
Et tu connais d'autres personnes qui ont fait ça ou
Ouais, ben il y en a eu pas mal en fait, j'avais pas vu, mais le lendemain ils organisaient une journée spéciale pour faire ça. Donc le lendemain il y a eu plein de gars qui l'ont fait. Et là j'ai vu après tomber il y en a pas mal, il y a même des gars qui il y a un gars qui a fait un triple. Donc trois fois, et je crois il est allé plus loin, il a fait 29 000 mètres ou un truc comme ça. Enfin c'est bon, voilà, il y a toujours des fous dans ce genre de truc. Donc le gars, il a fait trois fois ce que j'ai fait. Je lui ai dit mais pff, c'est en plus ça avait une vitesse assez impressionnante. Donc ouais, il y a des gars qui sont quand même costauds.
Bon, l'avantage c'est que tu risques pas la chute au moment du ravito quoi sur Zwift.
Non, bah en plus t'as le droit de descendre du vélo dans les descentes parce que le vélo il est en roue libre. Alors moi la descente elle était un peu pénible parce qu'il y avait deux trois coups de cul dedans, donc j'étais obligé de rester sur le vélo donc pour parce que sinon ton là il s'arrête. Donc c'était ma descente était moins reposante que d'autres en fait, où tu peux laisser couler pendant 12 bornes et là je devais relancer et bien garder ma vitesse, donc c'était un peu plus pénible ça.
Est-ce que tu as des conseils du coup en tant que pro Zwifter entre guillemets à des gens justement qui tout à l'heure tu parlais de tous les gens qui te posaient des questions et Dieu sait qu'il y en a hein, moi aussi j'en ai eu beaucoup sur le matos, mais est-ce que tu as un conseil à leur donner? Effectivement, tu leur disais éviter les efforts trop brefs, trop forts.
Bah après ouais, chacun enfin sur le matos, moi j'ai pas le truc le super matos hein, moi quand j'ai investi là-dedans, c'était vraiment j'ai pas pris le moins cher mais pas loin, donc mais ça marche très bien. Après maintenant il y a les home trainers, les direct drive, tout ça qui sont hyper pointus, mais pff, quand je vois le prix je me dis ouais, ça coûte le prix d'un beau vélo déjà, donc bon je me dis c'est déjà largement suffisant ce que j'ai, mais après en termes de pratique je pense qu'il y a rien de spécial. Je pense qu'il est intéressant, c'est de regarder un peu des. Là, il y a des courses là qui commencent à arriver. D'ailleurs, cet après-midi, il y a le Tour de Suisse virtuel qui
est pas sur Zwift d'ailleurs, hein, qui est sur un autre qui a l'air bien, ouais. Qui a l'air.
Ouais. Mais moi, j'aime bien Zwift parce que l'environnement est quand même sympa. Là, le côté social qui est plus sympa que d'autres. Bon, voilà. Mais c'est de regarder des courses sur Zwift, c'est assez intéressant. Les gars, mais c'est des. Il y a vraiment des spécialistes et c'est de voir un peu comment ils font, comment ils abordent les trucs. Enfin bon, mais bon, ces mecs c'est des avions, mais après j'ai pas forcément de conseils comme ça. Si vous faites une longue sortie, c'est bien s'hydrater, se mettre de la crème dans votre cuissard parce que là ça peut faire mal. parce qu'on transpire beaucoup, c'est mettre un ventilo ou bien aérer parce que c'est enfin, vraiment là on se déshydrate vraiment très vite, mais autrement bon il y a rien de exceptionnel non plus.
C'est un peu comme sur un vrai vélo finalement.
Ouais, moi c'est sûr que oui. Moi j'avais préparé l'Everesting comme j'avais préparé le vrai que j'avais fait. J'avais tout préparé, la bouffe. Les boissons, tout, enfin, il n'y avait pas beaucoup de différence. C'est juste qu'on peut faire un peu, on peut être un peu plus distrait que pendant un vrai où, là, avec la fatigue, il faut faire attention. Ouais.
Du coup, donc ce confinement, là, on a vu, tu l'as passé beaucoup sur ton home trainer. Mais alors moi, il y a quelque chose qui m'a de suite attiré hein, quand j'ai vu sur tes réseaux sociaux. En ce moment, tu donnes de ta personne, tu sors de chez toi. Tu peux nous en parler un peu plus?
Ouais. Alors c'est en fait, c'est pas pour une association, c'est une initiative citoyenne qui a démarré il y a un peu plus d'un mois. D'ailleurs, c'est un ancien gars qui bossait chez Decathlon qui a créé ça, qui est très proche de, enfin, qui s'occupe beaucoup des autres et dans cet univers de l'aide aux personnes qui en ont besoin. Et donc, il a créé le mouvement pour eux.
Donc pour le trouver, hein, c'est dièse pour eux en fait, c'est ouais. Le hashtag pour eux.
Ça, ouais. Et c'est, il y a aussi une adresse, je peux te la dire.
Bon, on la mettra en dessous du, de toute façon, voilà, dans les infos du podcast. Ouais.
C'est pour eux le move.com, je crois, c'est ça. Je te préciserai. Et donc, en fait, le principe, c'est que des gens cuisinent chez eux. Voilà, ils font un panier repas avec une boisson, un plat, un dessert, et puis ils peuvent mettre aussi d'autres éléments. C'est assez développé depuis quelques jours. Il y a même maintenant un peu de matériel ou des vêtements. Il y a aussi pour elles avec des produits d'hygiène féminine, des choses comme ça. Et donc, quand ces gens ont fini leur panier, ils le communiquent à une application. Et moi, en fait, de chez moi, je vois les différents endroits où les personnes mettent à disposition ces paniers, et je choisis d'aller les récupérer. Et alors moi, je m'occupe de la zone, comme j'habite plutôt le nord de la métropole, moi je m'occupe de Tourcoing et Roubaix, et puis Mouvaux, enfin toutes les villes limitrophes. Et donc je vais chercher tous ces paniers repas donc en cargo, parce que c'est quand même hyper pratique pour mettre tout ça. Je vais les chercher chez les gens, et puis une fois que j'ai tout récupéré, je vais les distribuer à des SDF ou à des mal logés, à des familles, par contre, c'est pas comme un Deliveroo qui sait où il va, où il prend et où il doit délivrer, où il doit livrer. Moi, je livre où je vois qu'il y a un besoin. Donc, si je vois un SDF dans la rue, je m'arrête, je lui demande et puis je lui dépose un panier. Et puis donc petit à petit, le but aussi, c'est il faut être hyper observateur, de se dire tiens, ici peut-être qu'il y a un besoin. Donc je passe dans les rues, je regarde, des fois je demande à quelqu'un, et puis j'ai découvert différentes familles ou différents endroits où il y a un gros besoin. Et les gens, ils hallucinent un peu, ils se disent mais c'est génial, merci. Enfin donc voilà, donc c'est vraiment une initiative qui est vraiment importante, surtout en ce moment, parce que certains ils sont encore plus dans la précarité. Moi, en même temps, ça me permet de rouler un peu. Alors c'est pas des sorties, enfin c'est quand même long. C'est des sorties de 40, 50 ou 60 kilomètres, mais bon, c'est vrai que c'est un rythme assez bizarre, parce que c'est que en ville, et tu fais que t'arrêter, reprendre. Mais voilà, ça permet de prendre un peu l'air, et puis surtout de faire une bonne action pour aider toutes ces personnes. Et il y en a un paquet dans le coin là, quand je vais à Roubaix, enfin c'est effrayant, enfin c'est pas une nouveauté, mais c'est vrai qu'il y a des quartiers où je pense que pas grand monde ne met les roues. Et les premiers jours, je me suis pris quand même des bonnes claques dans la gueule de ce que j'ai vu. Donc ça serait bien que d'autres personnes rentrent dans cette initiative.
Là, on est. C'est un peu les oubliés du confinement, ouais.
Oui. Après, ils sont oubliés tout le temps, hein, mais là encore plus, parce que il y a des zones, surtout les SDF par exemple, ils se mettent dans des zones où il y a des commerces, et comme pas mal de commerces sont fermés, forcément il y a moins de passages, donc moins de dons pour eux. Et puis même il y a d'autres personnes, hein, là on a une messagerie qui dit voilà, là il y a telle personne, on se rend compte qu'il y a des gens qui deviennent vraiment dans la précarité à cause du confinement.
Ça t'oblige finalement, cette recherche là, à chercher quelque chose qu'on a tendance à pas vouloir voir, en fait.
Oui, c'est sûr. Moi, j'ai pas long à faire, hein. Enfin, c'est vrai que la métropole lilloise, elle est très mixte. Donc tu peux aller à Roubaix, à un quartier avec hyper huppé, et faire 300 mètres et c'est le tiers monde. Donc c'est assez bizarre, mais c'est vrai que c'est des endroits, déjà parfois t'es pas forcément rassuré, mais finalement les gens sont hyper sympas. Surtout si tu viens à vélo, déjà les gens, ils voient tout de suite un cargo, ils sont moins suspicieux, ils disent après quand ils ont compris, ils sont hyper souriants, ils nous disent c'est génial, merci et tout. Donc c'est vrai que c'est pas l'image qu'on peut avoir de bah, de quartiers comme Roubaix ou d'autres. Hein. Moi, je m'occupe plutôt de là. Il y a beaucoup de livreurs à Lille. J'ai, la première journée, je l'ai faite à Lille. Il y a beaucoup de camps de SDF ou de migrants un peu partout. Donc, c'est vrai que c'est impressionnant quand tu, parce que tu te permettrais pas de rentrer dans un camp de migrants comme ça pour te balader, alors que là tu y vas pour leur rendre service. Donc c'est vrai que quand tu vois de près la misère, tu te dis waouh, c'est il y a quand même du boulot là.
C'est une initiative qui est partie de je crois qu'il y a Paris, Lille et Lyon.
Ouais, il y a Bordeaux, il commence à avoir d'autres villes, il y a même Bruxelles je crois maintenant.
Et si on veut, en fait, si on est cycliste et qu'on veut participer, c'est tout à fait possible, il suffit de s'inscrire sur l'appli, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Alors là ça avait été un peu bloqué parce que le but c'est qu'il y ait pas non plus trop de livreurs mais vu l'engouement, moi hier, j'ai fait une tournée, j'ai récupéré 30 repas, donc dans le cargo, ça commençait à être lourd. Donc, moi, dans notre secteur, on est quand même beaucoup moins nombreux à tourner autour dans Tourcoing-Roubaix. Donc, c'est vrai que ça peut être pas mal qu'il y ait plus de monde, parce que moi, je le fais pas tous les jours, j'essaie de le faire au moins un jour sur deux, voire un peu plus parfois. Mais si on a un peu plus, c'est sûr que ça sera pas mal, parce que c'est... ça peut tu peux pas non plus trimballer trop de repas comme ça d'un coup, donc ils sont les bienvenus.
Donc un jour l'Everest, un jour pour eux, on a bien fait le tour. Tes journées doivent être bien remplies quand même.
Ouais, bah c'est vrai, moi je vois pas le temps passer hein. En plus j'ai repris des projets que j'avais mis en stand-by. Là je suis sur un projet de cargo, là, de design d'un cargo. J'avais commencé il y a des mois, j'avais arrêté parce que j'avais plus le temps, et là je l'ai presque fini, donc et je serais curieux de le prototyper, parce que je me dis que à force de rouler en cargo, je commence à avoir pas mal d'idées de comment je pourrais améliorer tel ou tel truc. Et de par mon métier, forcément, j'ai un peu envie de faire bouger des trucs, mais donc voilà, je verrai. ça me plairait de le fabriquer.
Mais c'est un projet que tu aimerais présenter à Decathlon, ou c'est vraiment personnel?
C'est perso. Après, bon, pourquoi pas s'ils sont open, j'aime bien faire des projets aussi perso, et puis ça peut déboucher sur plein de choses, hein, on sait jamais.
Ok. Sinon, des conseils de lecture. Je sais que tu aimes bien lire.
Ouais, des conseils de lecture. Là, j'ai acheté des trucs, mais j'ai pas eu le temps. En fait, je pensais avoir du temps pour lire, mais j'ai pas trop eu le temps. un livre en particulier. Enfin, je pense qu'il y a pas mal de choses qui se passent là avec le confinement. Même si c'est des magazines. Je pense qu'il faut bien ne pas perdre de vue tout ce qui peut se passer, parce que justement c'est une transition, et il peut se passer des trucs bien comme des trucs vraiment pas bien. Donc c'est de lire des personnes qui ont pensé tout ça en avance. Moi c'est un 1984 le livre là qui est une base, hein, mais c'est vrai qu'on est pas mal là-dedans, je trouve. Il y en a d'autres, hein, le meilleur des mondes aussi, d'Huxley, je crois que c'est ça. Enfin, il y a ce genre de livres, je pense qu'ils sont hyper importants à bien creuser, parce que
c'est le moment de les lire, ou de les relire,
quoi. Ouais, il faudrait que je les relise, parce que je sais qu'à l'époque c'était peut-être moins c'était pas le même contexte, mais déjà il y avait quand même des trucs qui étaient surprenants, mais là faut faire super gaffe là.
Bon, bah écoute, merci Alex. On arrive à la fin un petit peu de notre interview. Quelle est la première chose que tu as envie de faire le jour où le confinement va être levé?
Alors, c'est déjà prévu. Alors, il y a des trucs à... Le tout premier, alors c'est sûr que ça peut être que le tout premier, parce que le but, c'est de le faire dès minuit. Donc on verra en fonction de comment évolue le déconfinement. Mais là, sur Facebook, on est quelques potes, c'est un groupe privé, et j'ai lancé l'autre fois le truc de partir rouler de nuit dès minuit pour fêter ça. Et justement, tout à l'heure, les nouveaux brasseurs qui vont faire la Meltenie, il a vu ça, il m'a dit, ouais, on ouvre la brasserie pour boire un coup, quand on aura fini de rouler, ou vous venez à vélo, etc. Donc voilà, c'est un peu un truc comme ça. Donc ça serait vraiment dans l'instant, ça. C'est automatiquement, enfin c'est légalement, voilà, on y va. Après moi, voilà. Après, je pense que c'est aller voir mes parents, parce que c'est vrai qu'il y a les, c'était prévu, il y a les 80 ans de mon père, donc puis ils habitent Nantes, donc là on peut plus. Donc et puis après le reste, bon après c'est plus anecdotique. Je pense que le reste on verra.
Du coup, le mot de la fin, il est pour toi. Je te laisse si t'as un mot de la fin.
Bah, le mot de la fin, moi j'espère que tout le monde, voilà, va essayer de passer ce confinement le mieux possible, de bien le prendre, justement, de pas le prendre comme une forcément trop une contrainte. Mais il y a un moment de, voilà, un moment pour se retrouver, pour voilà faire des projets qu'on n'avait pas le temps de faire, pour se dire surtout penser à l'après, parce que voilà, ce que je disais, c'est que même si, enfin, c'est, voilà, c'est une grosse crise, même si elle est peut-être un peu démesurée par rapport à l'ampleur du truc, mais bref, justement, c'est un bon moyen de se poser des questions et de faire bouger pas mal de lignes, de pas redémarrer à bloc comme avant et de refaire les mêmes bêtises qui nous ont emmenés là. Donc, voilà, c'est ce que je dirais.
Bon, ben merci beaucoup Alexandre. On arrive à la fin de cet épisode de Dans la roue. Bon, ben comme toujours, si vous avez aimé le podcast, vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre des notes. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires à moi ou à Alexandre. D'ailleurs, Alexandre, si on veut te suivre sur Instagram, Facebook, peut-être on tape Alexandre Voisine tout simplement.
Ou Alex Voisine. Enfin, sur Instagram, c'est Alex Voisine. Sinon, c'est Alexandre Voisine sur Facebook.
Ok, super. Donc voilà. Donc si vous voulez creuser un petit peu, aller découvrir ou envoyer des commentaires, des questions à Alexandre, peut-être questions techniques sur le home trainer. Non, je rigole. N'hésitez pas. D'ici là, donc mon prochain invité sera Olivier Gaudin. On en a parlé un petit peu dans le podcast avec Jeanne. Donc il viendra nous parler un petit peu de la traversée qu'il a faite des États-Unis, la fameuse Great Divide. Et bon, bah d'ici là, portez-vous bien et à bientôt.